Il est 18h.
RJB Info.
Le journal, Séverine Boé, bonsoir.
Bonsoir. Le racisme à l'école enfantine, c'est une réalité. Une fillette scolarisée dans le Seeland a vécu cette douloureuse expérience. Comment ce genre de cas sont-ils gérés? Notre enquête dans quelques minutes. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant l'avenir des transports publics dans le Jura bernois. Le conseil exécutif semble confiant dans la réponse qu'il a transmise à la députée verte Moussia Devatteville, qui s'inquiétait de la perte de parts de marché des chemins de fer du Jura. La nouvelle loi sur le CO2 est enfin sous toit. Il aura fallu 4 ans aux chambres fédérales pour la finaliser. La loi fixe 2 objectifs, la réduction de moitié des émissions de CO2 en 2030 et la neutralité climatique en 2050. Le temps va se dégrader progressivement. La pluie pourra faire son apparition en fin de nuit. Demain, éclaircies et averses seront au menu de la matinée. Les températures oscilleront entre 18 et 20 degrés au meilleur de la journée. Le racisme n'a pas d'âge. Dans les classes enfantines, c'est aussi une réalité. Pourtant, difficile d'en parler avec de jeunes enfants. Diana Dacosta s'est penchée sur le sujet pour en savoir plus sur la gestion d'une telle problématique dans la région. Point de départ de cette enquête, le témoignage d'une fillette scolarisée dans le Seeland, victime de moqueries racistes sur les bancs d'école.
En fait, il disait que j'étais un mouton, mais... je n'avais pas du tout l'impression d'être un mouton et je trouvais que ça, c'était vraiment beaucoup trop de racisme. Il disait que je ressemblais à un caca et puis c'était vraiment pas vrai. C'était juste que ma peau est comme ça.
Du haut de ses 6 ans, Manuela a été victime de racisme de la part de ses camarades. C'était dans une commune rurale du canton de Berne. Née d'une maman helvético-portugaise et d'un papa rwandais, elle se trouvait être la seule enfant métisse de sa classe. Kim, sa maman, n'a pas eu d'autre choix que de la changer d'école.
Un matin, elle m'a dit « Écoute maman, je ne veux plus aller à l'école, les enfants ils sont pas gentils avec moi ». Et elle pleurait et je voyais réellement son mal-être. Les premières choses que j'ai faites, c'est contacter les maîtresses, contacter la direction de l'école et puis contacter le parascolaire. Et de toutes parts, personne n'assumait, personne ne voulait voir la réalité.
En principe, la question de la différence est abordée dès l'école enfantine. Mais c'est au professeur directement qu'il revient de l'approfondir davantage ou non. Andrea Fuchs-Fatté, collaboratrice scientifique à la direction de l'instruction publique du canton de Berne.
L'enseignant, il gère sa classe. Ça peut aussi être au niveau de toute une école. S'il décide de faire une année sur le thème de la différence, ils pourront investir ça de leur manière. Mais je pense qu'il y a différentes questions dans les écoles. Une école de quartier... se poseront pas les mêmes questions dans notre quartier. Donc il faut être flexible par rapport à ces spécificités puis pour pouvoir répondre adéquatement aussi à ces demandes-là.
Une sensibilité qui varie donc d'un enseignant à un autre. Il arrive que des interlocuteurs externes les sollicitent pour intervenir dans leur classe. C'est le cas de Naïma Serouk, fondatrice de l'association Tassamou. Elle lutte contre la discrimination raciale et religieuse dans l'arc jurassien et elle nous raconte qu'il n'est pas toujours facile de se faire une place dans le programme scolaire.
On s'est proposé parfois des écoles et qu'ils disent « non, on n'a pas la possibilité ». Je me souviens que j'ai proposé nos projets à quelques maîtresses d'école et la réponse était presque agressive. Ils ont dit « mais on fait déjà la multiculturalité dans la classe ». Et ça, c'est notre façon de faire, on n'a pas besoin de quelque chose de plus.
Des initiatives comme celle de Naïma Serouk sont rares dans la région, autant au niveau des communes que du canton. Difficile d'entrer en contact avec les personnes de référence. La discrimination raciale dans les classes est encore une problématique taboue.
C'était une enquête de Diana Dacosta. Sachez que si vous êtes témoin d'actes racistes envers un enfant dans le cadre scolaire, il conviendrait de contacter la direction de l'école ou celle de l'instruction publique du canton de Berne. Pratiquer une activité physique ou reprendre le sport après une période d'arrêt n'est pas sans risque. C'est pour encadrer au mieux la population que l'hôpital du Jura bernois a mis en place un forfait sport santé. C'est sur la base de la dernière enquête sur le sport en Suisse que l'HJB a décidé de lancer ce nouveau concept. De plus en plus de personnes pratiquent une activité physique, notamment après 35 ans. Plus d'informations sur rjb.ch. Le conseil exécutif est confiant quant à l'avenir des transports publics dans le Jura bernois. C'est ce qu'il déclare dans sa réponse à une interpellation de la députée verte Moussia Devatteville. L'élu des Russies s'inquiétait le printemps dernier de la perte de parts de marché des chemins de fer du Jura en termes de lignes de bus. Les explications d'Olivier Zano.
Les inquiétudes sont nées de la mise au concours des 39 lignes de bus du canton du Jura. Les résultats publiés en mai ont signifié la perte de 6 lignes pour les CJ au profit de Cars Postales, dont 4 nocturnes. 2 de ces lignes sont intercantonales. C'est un coup dur pour des CJ déjà chahutés par la restructuration du transport des marchandises par le rail. Reste que le canton de Berne a tenu à rassurer dans sa réponse diffusée récemment. Il reconnaît que la compagnie des chemins de fer du Jura, dont il est actionnaire, est fragilisée dans son ensemble et que ses frais fixes sont conséquents. Mais elle conserve toutefois 3 lignes ferroviaires ainsi que 2 lignes de bus subventionnées, soit Tramelan-Saint-Imier et Saint-Imier-Gare Hôpital. Moussia de Vatteville s'interroge encore sur le processus de mise au concours et regrette qu'une adjudication directe n'ait pas été effectuée. Pour le conseil exécutif, la méthode porte ses fruits et permet d'améliorer la qualité des services. Il estime en outre qu'il est inadmissible de privilégier les sociétés locales, des sociétés déjà avantagées par rapport à de nouveaux candidats, puisqu'elles connaissent mieux le marché et les conditions locales.
Merci Olivier. Pour rappel, le canton de Berne détient 14,5% des actions des chemins de fer du Jura. Il est le 3e plus gros actionnaire après la Confédération à 33% et le canton du Jura à 37%. Après 4 ans de débats intenses, influencés par les élections et les manifestations dans la rue, une majorité de 3 contre 1 au Parlement fédéral accouche d'un texte majeur, la loi sur le CO2. Les dernières divergences ont été aplanies aujourd'hui. Il ne manque que le vote final vendredi. La loi fixe 2 objectifs, la réduction de moitié des émissions de CO2 en 2030 et la neutralité climatique en 2050. L'adoption de cette loi a été rendue possible par le changement de cap opéré par le PLR l'an passé. Son conseiller aux États lucernois, Damien Muller, est ainsi apparu comme un fervent défenseur du climat.
On a vraiment trouvé des solutions qui plaisent pour tous les mondes, pour tous les partis. Et on fait vraiment le premier pas pour pousser aussi le but pour 2050 d'avoir une loi et une paye avec une netto nul.
C'est aussi une loi économique.
Absolument, parce que ça pousse aussi l'économique avec l'innovation et bien sûr avec des bâtiments qui ont un vraiment potentiel en Suisse pour rénover. Je crois vraiment maintenant des peuples veulent soutenir aussi cette loi.
Seuls l'UDC et 2 PLR et PDC sont au final contre la loi sur le CO2. Pour l'UDC, le bilan de 4 ans de débat est rude. Aucune de ses propositions n'a été acceptée. Elle lancera le référendum, le conseiller national fribourgeois Pierre-André Page.
Là, on a perdu sur toute la ligne, je dois reconnaître. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'on puisse lancer ce référendum afin d'aller devant le peuple pour savoir si vraiment la population acceptera de se faire taxer d'une pareille façon après ce que l'économie vit. Avec la pandémie qu'on a actuellement, l'économie est à genoux et on vient qu'une couche de taxes droit derrière, donc pour lui mettre les 2 genoux à terre, et ça on ne peut pas l'accepter. Alors on est tous d'accord qu'on doit protéger le climat, même de notre côté, on prend des mesures, mais au niveau des entreprises, chaque entreprise le fait spontanément, sans avoir un fouet derrière pour nous donner des taxes.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. On a compris, l'UDC s'opposera en particulier à 2 outils de la loi, la taxe sur les billets d'avion et l'aviation, ainsi que la hausse de la taxe sur l'essence. Il est justement question maintenant d'avion, et plus précisément de l'avion électrique qui prend son envol. La première édition du raid électropostal est partie aujourd'hui de l'aéroport de la Blecherette à Lausanne. Le périple durera 4 jours avec plusieurs étapes. Destination finale, le sud de la France. Samedi, présentation de l'itinéraire avec le Neuchâtelois Raphaël Donjean. Il est explorateur pilote, conférencier et président de la fondation Planète Solar.
C'est le départ de 2 avions électriques. On est sur les traces de l'aéropostale. 100 ans plus tard, l'aéropostale, ça a débuté en 1919. On reprend cette route mythique un peu de ces pionniers de l'aviation. Objectif, partir de Lausanne et rejoindre la Méditerranée, donc Marseille après Aix-en-Provence, avec ces premiers avions électriques certifiés que tout le monde peut acquérir, où les pilotes vont pouvoir se former, sans bruit, sans émission de CO2. Et on peut emmener des passagers avec nous. Là, on va partir avec un journaliste qui va pouvoir vivre cette expérience. Ça, par contre, c'est vraiment, on va dire, des premières.
L'avion électrique nommé Pipistrel est donc le premier de la sorte certifié par l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Son autonomie est encore limitée, comme l'explique Hervé Bérardi, cofondateur de l'électropostale.
Cet avion-là est conçu pour rester autour d'un aérodrome. Il est conçu pour voler 50 minutes à peu près autour d'un aérodrome. Et nous, on veut l'utiliser pour se déplacer d'un point A à un point B pour montrer que l'aviation électrique pour se déplacer est aujourd'hui possible. Le défi est important parce qu'on a 50 minutes d'autonomie sur l'avion avec 20% de réserve. Donc, eh bien, on doit, en fonction de la météo, c'est un avion qui est très sensible au vent. Vous comprenez qu'avec 50 minutes de vol, si on a un fort vent de face, c'est pénalisant. Bien évidemment, on a des plans B et des plans C en cas de problème en route, pouvoir se poser quelque part. Mais en termes de logistique, il faut pouvoir devoir recharger les avions à chaque fois, donc c'est quand même assez lourd en termes de logistique, et donc on est obligé de prévoir des trajectoires.
Des propos recueillis par notre confrère de LFM, Émilien Verdon. Et parmi les 6 pilotes qui participeront à ce périple long de quelques 400 km, notons que pour la dernière étape de samedi, l'aéronaute suisse Bertrand Piccard sera de la partie. Une vie en colocation pour gagner en autonomie. Le projet Paracoloc de la Fondation Suisse pour paraplégiques permet aux blessés de la moelle épinière de partager un appartement. Les deux premiers logements de ce type ont été inaugurés vendredi passé à Schenkon, près de Lucerne. Le Neuchâtelois Antoine Barizzi fait partie des premiers résidents. Tétraplégique depuis ses 16 ans, il espère pouvoir bénéficier de ce soutien, notamment pour gagner en liberté.
Mon but principal, c'est de pouvoir devenir autonome le soir, car c'est là où il y a plus de difficultés d'avoir de l'aide à domicile le soir. Et c'est ce qui me permettrait de gagner le plus d'autonomie et de liberté dans mes sorties, notamment. Si j'ai plus besoin de quelqu'un le soir pour aller me mettre au lit et pouvoir me mettre en sécurité pour dormir toute la nuit, c'est un grand gain de liberté et d'autonomie pour moi. Car j'ai moins de pression d'horaire, car les soins à domicile viennent jusqu'à telle heure et donc je dois rentrer jusqu'à une heure fixe. Ça me permettrait, avec ce but d'être autonome le soir, ça me permettrait justement de gagner en liberté. Et donc on travaille des séquences en vue d'améliorer cette autonomie.
Le projet comptait initialement sur un appartement dédié, mais au vu de son succès et du nombre de candidats, un deuxième logement a été rapidement mis en place. Un troisième appartement devrait être proposé ces prochains mois. Dans l'actualité internationale, la pandémie de Covid-19 a déjà contaminé plus de 5 millions de personnes en Europe. Elle a fait près d'un million de morts dans le monde depuis fin décembre. Sur le vieux continent, plus de 380 000 nouveaux cas ont été déclarés ces 7 derniers jours. Une hausse qui s'explique en partie par la forte augmentation du nombre de tests réalisés dans certains pays d'Europe. Et après plusieurs mois de réflexion, le géant de l'agroalimentaire Mars a décidé de remplacer le nom et l'image de sa célèbre marque de riz Uncle Ben's, accusée de véhiculer des stéréotypes sur les Afro-Américains. Il s'appellera désormais Ben's Original. Les paquets de riz portant le nouveau nom et le nouveau logo arriveront dans les magasins en 2021. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est le Flash à 18h30. Excellente soirée.
Excellente soirée à vous également, Séverine Boé. On prend des nouvelles du ciel, niveau musique, on a du U2. Écoutez, rien que pour ça, ça vaut la peine de rester. Et j'ai encore une autre raison de vous faire rester, c'est On prend l'air qui débarque à 18h20. Pour ce soir, le ciel continuera d'être chargé par endroits, mais nous devrions rester au sec. C'est en seconde partie de nuit que la pluie pourrait enfin tomber dans la région. Demain, nous nous réveillerons sous un temps maussade. De petites éclaircies sont possibles, mais des petites averses également. Au fil des heures, les nuages prendront clairement le dessus et la pluie devrait tomber en continu jusqu'au lendemain à toutes les altitudes. Concernant les températures, on reste dans des normes de saison. D'après Météo News, il fera entre 13 et 15 degrés à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre 18 degrés dans le vallon de Saint-Imier, 19 dans la vallée de Tavannes, maximum 20 degrés à Moutier, tout comme à Bienne. Attention, dès vendredi, un front froid sera de passage dans la région et il fera chuter drastiquement le thermomètre.